Salut François, comment vas-tu?
Ça va très bien, Dan, toi-même.
Oui, est-ce que est-ce qu'il te restait dans le fond du locker ou du cabanon un équipement de gardien peut-être avec lequel tu avais gardé les buts dans ton jeune âge, dans la rue ou sur la patinoire extérieure? T'aurais pu donner ton nom ce soir et aller garder les buts avec les Hurricanes?
Il me restait des vieilles pads là, que la mousse sortait au fur et à mesure parce qu'on jouait trop dans la rue. Là.
Ouais.
À un moment donné, j'ai été obligé de les jeter, mais j'ai trouvé ça quand même drôle quand Rod Brind'Amour a comme hésité à ne vouloir pas nommer le nom de son gardien. Et Bruce Cassidy a dit, ben nous autres, il n'y a pas de problème, ça va être tout correct. C'est assez clair que tu sais, on est dans le siège du conducteur, on a un gardien numéro un. Mais j'ai trouvé ça intriguant, Dan, parce que je me suis posé la question. Si les séries se terminaient aujourd'hui, je trouve que tu sais pour chacune des équipes, ou à peu près, il y a un nom qui ressort dans le sens où tu sais les Sharks, c'est Couture qui semble être le meilleur joueur, qui serait le récipiendaire du trophée Conn Smythe.
Ouais.
Je pense que c'est Jaden Schwartz avec les Blues, peut-être avec Bennington, ce sont les deux gars. Mais moi, je trouve que Schwartz a marqué les gros buts. À Boston, c'est Tuukka Rask qui a été la grande vedette.
Ouais.
Puis là, tu arrives aux Hurricanes, tu te dis, oups, c'était un peu là, s'ils gagnaient la coupe. C'est qui leur MVP, leur joueur par excellence?
Rod Brind'Amour.
Écoute, c'est exactement à quoi j'ai pensé. Tu sais, je me disais, je trouve que présentement, c'est lui le joueur par excellence. Évidemment, c'est le coach. Et ça me faisait penser un peu à il y a quelques années quand les Patriots avaient décidé qu'au Super Bowl, on voulait pas qu'on présente les joueurs un par un, on voulait se faire présenter en équipe. Puis je trouve que dans le cas des Hurricanes, c'est un peu la situation. C'est-à-dire que à chaque soir, tu sais, oui, il y a eu des Warren Fogle puis des Aho, puis il y a tout le monde qui a eu son petit moment de gloire. Merastek puis même McElhinney quand il est venu en relève, mais il peut pas dire qu'un joueur qui sort du lot, c'est un beau succès d'équipe, mais c'est un succès d'équipe qui pourrait prendre fin très rapidement s'il ne gagne pas le match 3.
Pour le Conn Smythe, il y a seulement Patrick Roy qui l'a gagné 3 fois. Puis à l'époque où on était plus jeunes, toi et moi, en 87, Ron Hextall avait gagné le Conn Smythe dans une cause perdante. Et en 2003, Jean-Sébastien Giguère également l'a remporté dans une cause perdante. Est-ce que tu penses qu'on va vivre assez vieux pour revoir ça, un joueur ou un gardien qui va s'incliner en grande finale et qui va gagner le Conn Smythe?
Oui, moi je pense que oui, on va voir ça. Puis c'est sûr que de temps à autre, Dan, puis je pense que l'an passé est un bel exemple, les journalistes qui votent pour le trophée Conn Smythe parfois sont un peu vendus. Là, dans le sens que l'an passé, moi je pense que c'est Backstrom qui aurait dû gagner. On l'a donné à Ovechkin, c'est pas qu'il mettait, c'est pas comme s'il avait été invisible, il a été très bon. Mais moi, je pense qu'il y a des années où on se laisse un peu influencer par certains joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de succès en série.
Mais moi, c'était Kuznetsov. Tu vois, l'année passée, c'était pas si évident. Toi, t'avais Backstrom, moi, j'avais Kuznetsov.
Je suis certain qu'il y a des gens qui auraient choisi Oldby juste pour son arrêt dans le match numéro 2.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, mais tout ça, tu dis, il y a plusieurs candidats, mais.
Le temps versus Crosby, c'est. Je me souviens pas si c'est 2016 ou 2017, mais moi, pour moi, c'était le temps, puis c'est Crosby qui l'avait gagné.
Aucun doute là-dessus. Puis il y a plusieurs années comme ça. Puis je pense que les cas que tu as nommés de Hextall à la fin des années 80, Jean-Sébastien Giguère, je veux dire, c'était flagrant cette année-là. Les Ducks ne se seraient jamais rendus en finale de la Coupe qu'ils avaient perdu contre les Devils. Je pense que c'était la bataille des frères Niedermayer cette année-là. Ouais. Il aurait jamais participé à la finale sans lui. Fait que je me disais, écoute, peut-être que si, par exemple, les Blues venaient qu'à battre les Sharks, puis affrontent en finale les Bruins de Boston, puis que tu sais les Bruins perdent en 7, mais que Rask donne 10 buts en ces matchs en finale, je pense que ça pourrait être un candidat, parce que les chiffres sont impressionnants, puis je pense pas que les Bruins se seraient rendus là sans lui.
Ouais.
Sincèrement, je suis surpris de dire ça, parce que moi, je m'attendais, en cours de route, à ce qu'on voit Yaroslav Halak, tellement Rask a été so-so dans sa carrière dans les séries, mais il a vraiment répondu aux attentes. Mais c'est sûr que si San Jose gagne la coupe ou tu sais va jusqu'au bout, je pense que Logan Couture est un choix facile. Logan Couture est en train de prouver qu'il est un des meilleurs joueurs de série des 10 dernières années. C'est un gars qui... Les équipes ont hésité un petit peu. Il jouait avec les 67 d'Ottawa. Il y a des gens qui redoutaient un peu son coup de patin. Puis finalement, écoute, c'est un gars qui est très, 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 très bon sous pression puis dans les grandes occasions. Mais il n'y a aucun doute pour moi, Dan, que ça va arriver à nouveau des joueurs de l'équipe perdante qui vont remporter le trophée Conn Smythe. Mais il y a toujours plus de chances que ce soit un gardien de but dans ce genre de circonstances-là. Parce que comme joueur, il faudrait être un gars qui ait 32 points et en 22 matchs pour qu'il mérite.
Ouais.
Mais sinon, ça va être quand même assez rare.
Deux statistiques pour toi concernant Logan Couture, puis je veux les partager avec les auditeurs, parce que hier soir, c'était un de mes sujets dans mon émission, à quel point Logan Couture est sous-estimé. Puis bang, dans une défaite de 4-2, il marque les deux buts, il est rendu à 19 points, meilleur marqueur depuis le début des séries. Depuis le début de les séries, depuis le début du printemps 2010, cette même année où Yaroslav Halak, t'en parlais tantôt, avait battu tour à tour Washington et Pittsburgh en 7 matchs, ben depuis le début des séries en 2010, le nombre de buts marqués en série, Ovechkin domine avec 50 et Logan Couture en a 47 au deuxième rang, François.
C'est incroyable, puis il n'a pas fini, là. Je veux dire, cette année, le compteur va continuer à monter.
Puis il est plus jeune qu'Ovechkin?
C'est ça, il vient juste d'avoir 30 ans dans le club de Logan Couture, donc il y a encore de très, très belles années devant lui, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je vais t'avouer une chose, c'est que j'ai hâte de voir, je ne sais pas si le résultat des séries de cette année va avoir un impact, mais c'est fort possible que les Sharks soient très différents l'an prochain, pas nécessairement moins bons, mais je veux dire, si
plus de Thornton, plus de Pavelski, plus de Carlson.
Je pense que le visage peut changer de cette organisation-là, mais ce qu'on voit de Meyer, ce qu'on voit de Hertel, ce qu'on voit de plusieurs jeunes joueurs, qu'on c'est très encourageant. Puis même à un certain point, Martin Jones a vraiment repris de l'aplomb par rapport au gars qu'on a vu en saison régulière qui a eu des hauts et des bas. Donc peut-être que c'est juste le leadership qui va changer pour cette équipe-là. Mais tu sais, moi, si je m'appelle le DG des Sharks, pas sûr que je suis prêt à donner 11 à 12 millions pour Carlson.
Non.
Même si son agent dit qu'il joue blessé. Je pense que je préférais peut-être signer tous mes jeunes joueurs à long terme plutôt que de ramener un gars comme Carlson. Puis écoute, la transaction, on verra dans 5 ou 10 ans comment les joueurs et les choix que les Sénateurs ont obtenus vont valoir à ce moment-là. Mais peut-être que si les Sharks ne donnent pas la coupe et ne ramènent pas Carlson, sans dire que c'est une transaction qu'on va regretter, je pense pas, mais on attendait certainement d'en avoir plus avec Carlson. Ouais.
Mais Doug Wilson est un homme de hockey pour qui j'ai un énorme respect. Il est respecté dans la Ligue nationale également. Je pense qu'il va prendre la décision dans le cas de Carlson. Puis l'autre statistique concernant Logan Couture, c'est le nombre de points depuis le début du printemps 2016, donc la première des deux Coupes Stanley consécutives des Pingouins. Crosby a 68 points depuis le début du printemps 2016 et au deuxième rang, Couture en a 64!
C'est impressionnant, puis j'ai trouvé que, on dirait que cette année, c'est un peu son coming out. Il y avait eu des très bonnes séries en 2016, quand les Sharks avaient perdu en finale de la Coupe, il avait remonté 30 points. Et je regardais les stats hier, justement, on le voyait aller, puis 30 points, il avait marqué 10 buts. Il est déjà rendu à 13 buts en 16 matchs, puis on s'entend qu'il en a marqué quelques gros dans des occasions. Je regardais hier en désavantage numérique, c'est lui qui a remis son club dans le match. Ouais. Il crée l'égalité quelques minutes plus tard. Exact. Oui, ils ont perdu le match. Mais c'est pas juste de marquer des buts, mais c'est de les marquer au bon moment, de la façon dont ils se comportent sur la patinoire. Puis même, je dirais, à un certain point, de la façon dont ils s'est comporté pendant l'absence de Pavelski. C'était un peu lui qui était devenu le meneur de cette équipe-là.
Ouais.
Vraiment, là, très impressionné. Puis, tu sais, si les Sharks se rendent jusqu'en finale, les chiffres que tu viens de donner vont continuer à grimper. Puis c'est peut-être un gars qui va sortir pas mal plus tôt dans les pôles de série dans les prochaines années, en sachant que c'est un vrai bon gars de série.
Ryan O'Reilly, il y a un an, jour pour jour, ou à peu près, François, Ryan O'Reilly faisait une déclaration fracassante et avouait avoir perdu son plaisir de jouer au hockey. S'il y a des gens à l'écoute de mon émission ce soir qui sont malheureux dans leur emploi puis qui se demandent ce qui va leur arriver dans un mois ou deux, bien, sachez que ça change vite dans le hockey, ça change vite dans le sport, mais ça peut changer vite dans la vie de tous les jours. Il y a un an, il disait « on a une culture de perdant à Buffalo puis ça me tente plus ben de jouer au hockey ». Et actuellement, non seulement il est avec les Blues en finale de conférence, mais hier, il a brisé un record de tous les temps de la LNH. 7 matchs de suite sur la route avec au moins un point. Il partageait le record avec 4 autres joueurs, dont Wayne Gretzky et Bretthall, allés jusqu'à hier. Mais là, il détient le record seul. Ça change vite, pareil.
Ah, c'est incroyable. Puis, je veux dire, moi, personnellement, je suis pas le plus grand fan de Ryan O'Reilly. C'est pas un mauvais joueur de hockey, loin de là. Mais il y a quand même un salaire assez imposant. Puis, la transaction de l'an passé qu'il avait fait passer, justement, de Buffalo à Saint-Louis.
Oui.
Je veux t'avouer que moi, j'aimais ce que les Sabres faisaient dans le sens où tu es en reconstruction. Dans la transaction, on avait obtenu, Berglund puis Zobotka, mais surtout Tage Thompson, qui est un très bon jeune joueur, en plus d'un choix de première et d'un choix de deuxième ronde pour Ryan O'Reilly. Je me disais, écoute, je trouvais que c'était quand même très cher payé pour les Blues dans les circonstances.
Okay.
Mais il a eu sa meilleure saison en carrière. Cette année, il a été superbe. Il a presque ramassé un point par match. Il a été très bon dans plusieurs phases du jeu, mis à part de ramasser des points. Puis je pense que ce que tu as mentionné, la motivation, je pense que les choses ont changé aussi. Le changement de marché, de passer dans une équipe gagnante. Le problème, c'est posé deux, trois questions dans les premiers mois de la saison des Blues en disant, c'est moi le problème dans ce dossier-là. Mais il s'est replacé, l'équipe s'est replacée. Il est probablement non seulement plus heureux, mais pas mal plus intéressé à poursuivre sa carrière maintenant. Parce que, tu sais, Ryan O'Reilly, ça a été un bon joueur, sans être une super vedette. Sauf à rendre Sidney Flames, qui lui avait fait une offre hostile à un certain moment donné, que l'Avalanche avait décidé d'égaler.
Ouais.
Quand on l'a échangé à Buffalo, on avait, du côté des Sabres, on avait quand même donné Zadorov, Grigorenko, puis je pense qu'il y avait JT Comfort aussi. Donc, tu sais, on avait payé le gros prix, puis on n'avait pas eu les résultats escomptés non plus dans son cas, parce que c'est un joueur qui t'en donne beaucoup plus que les statistiques, mais au prix qu'il paye, il faut que les statistiques soient là aussi. Là. C'est un gars qu'il faut qu'il marque un 20-25 buts. C'est un gars qui est capable de récolter, sauf erreur, cette année, c'est 77 points. Écoute, c'est vraiment un joueur qui peut avoir un impact très important, mais est-ce qu'il peut être ton leader? Est-ce qu'il peut être ton attaquant numéro un, celui qui va mener le reste de l'équipe au ton centre numéro un? Ça dépend, je pense, de ton équipe et de la façon dont elle est construite. Mais vraiment, là, cette année, il est en train de prouver qu'il peut faire partie de la crème et qu'il peut être un très bon leader pour une équipe comme les Blues. Puis, sincèrement, Dan, j'ai adoré ce que les Blues ont fait hier. C'est pas facile d'aller gagner à San Jose numéro 2 après avoir joué une plate dans le match numéro 1 et après avoir perdu l'avance 2-0 dans le match numéro 2. J'ai trouvé que les Blues ont démontré beaucoup, beaucoup de caractère dans leur victoire d'hier.
Absolument. François, avant de te laisser, j'ai une question pour toi. Puis c'est pas une question au piège, mais peut-être que tu vas trouver que c'est une drôle de question. Puis je sais même pas si on va pouvoir cibler une réponse définitive concernant le départ des Nordiques en 95. Sur la plateforme Podium de Radio-Canada, aujourd'hui, Carey Fraser parle du fameux but refusé à Alain Côté. Puis il dit que dans les années qui ont suivi, il est venu faire des matchs au Colisée, puis il a reçu des menaces. Il y a des gens qui l'attendaient dans le stationnement, puis il y a des gens qui lui en voulaient. Puis il dit la sécurité à ce moment-là au Colisée, c'était pas l'idéal, fait que ça a été plus tough. Mais ceci dit, est-ce que tu es capable de cibler, ou si je te posais la question, mettons, si Carey Fraser refuse pas ce but-là à l'un côté, puis que les Nordiques éliminent en 87 le Canadien, as-tu l'impression que les Nordiques restent à Québec, ou c'était plus large que ça? Es-tu capable de cibler un moment important, peut-être l'élimination de 93 ou l'élimination de 95 même contre les Rangers avec cette drôle de décision d'Andy Van Hellemann, le vendredi saint peut-être, le but d'Alain Côté? T'es-tu déjà arrêté à ça?
Oui, jusqu'à un certain point, parce que je sais, j'ai déjà fait un peu la même analyse avec le départ des Expos. Il y a des gens qui vont dire que ce soit le Stade olympique, la grève de 94. Moi, j'ai toujours pensé que les Expos sont morts quand le premier ministre a dit non au financement d'un nouveau stade. C'est vraiment là que, tu sais, on est parti dans l'autre direction. Dans le cas des Nordiques, il y a une chose que tu as mentionnée qui était quand même intéressante, c'est entre autres l'élimination de la dernière année 1995 contre les Rangers. C'est-à-dire que si les Nordiques, cette année-là, gagnent la série contre les Rangers, tu prends un petit bout de chemin. Peut-être que les revenus sont différents, peut-être que l'attitude est différente. Ça, on le saura jamais. Mais pour moi, autant pour la décision de Carey Fraser, tu sais, que quelques décisions, des transactions, des mauvaises décisions de l'organisation, je pense qu'on arrive à peu près au même constat que les Expos, dans le sens où Marcel Aubé, à un certain moment donné, tu te rappelles, avait parlé d'un casino. Tu te rappelles de ça, à une certaine époque, le fameux casino pour à Québec pour financer un nouveau Colisée. Il y avait toutes sortes de projets. À partir du moment où on a tué dans l'œuf ce genre de projet-là, et surtout la construction d'un nouvel amphithéâtre. À cette époque-là, on est dans les années 90.
Ouais.
Je pense que c'était pas mal réglé à partir de ce moment-là. Tu sais, autant les performances sur la patinoire, on s'entend, les Nordiques en allaient dans la bonne direction. Ils ont même gagné la Coupe l'année d'après. Mais je pense que c'est vraiment au niveau du nouveau Colisée, du fait que le gouvernement à l'époque était pas très enchanté à l'idée de soit d'un nouveau casino, de financer le nouveau projet. Je pense que c'est vraiment, vraiment là qu'on a trébuché et qu'on a dit non. Puis, tu sais, on s'entend dans les choses très, très différentes aujourd'hui. Des fois, quand tu as plusieurs propriétaires, beaucoup de gens avec qui tu dois gérer, on dirait que à cette époque-là, la décision était plus facile à prendre. Il y avait moins de monde impliqué. Puis, le commissaire en plus, à cette époque-là, venait d'arriver. Puis, lui, je pense que ça lui faisait plaisir de sortir un club canadien pour l'envoyer aux États-Unis. Donc, tu sais, tout ça mis ensemble font en sorte que je pense que c'est vraiment à l'extérieur de la patinoire et le fait qu'il n'y ait pas eu de nouveau Colisée, beaucoup plus qu'une décision de Carey Fraser ou un but qui a été refusé au Nordique à l'époque.
OK, mais je te laisse là-dessus. Évidemment, tu réfléchiras à ça, mais et je veux que les auditeurs réfléchissent en même temps. En 82, Dale Hunter marque le but en prolongation au Forum. Les Nordiques éliminent le Canadien. En 85, Peter Stachny marque le but décisif. Les Nordiques éliminent le Canadien, dans les deux cas, à Montréal. S'il n'y a pas de Vendredi Saint, moi, je persiste à croire qu'au lieu de casser le nez de Peter Stachny, ben, les Nordiques battent le Canadien. Et là, c'est peut-être l'ancien partisan des Nordiques qui parle puis qui en met plus que le client en demande. Mais et ça, c'est en 84, le Vendredi Saint, puis le but d'Alain Côté est en 87. Imagine-toi qu'au cours d'une décennie, 4 années, les Nordiques éliminent le Canadien au Forum. Pense à ça 2 minutes, là.
Ben, j'avoue, mais ton analyse du Vendredi Saint est très bonne aussi, là, parce que si on avait donné les bonnes punitions puis sorti les bonnes personnes, on n'aurait peut-être pas eu le même résultat. Mais c'est pour ça que je te dis, moi je pense plus aux années 90, okay, en cours de 95, puis même 93, évidemment, que si tu gagnes ces séries-là, puis que tu fais un petit bout de chemin, tu mets un peu plus d'argent dans les coffres, puis la folie devient plus grande aussi parce que tu fais un bon en série, je suis d'accord que ça aurait pu avoir une influence. Mais peut-être aussi que si les Nordiques avaient eu un petit peu plus de chance puis de gagner ces gros matchs-là à Montréal puis des décisions qui tournent de ton côté, les choses auraient pu être très différentes. Mais ce qui est fascinant, Dan, c'est qu'il y a, je te dirais, 5 ans, 6 ans, je m'en souviens toujours que moi, j'étais convaincu que les Nordiques revenaient dans la prochaine expansion avec Vegas, ouais, pour 2016, 2017, ouais, 2018. À l'époque, on ne le savait pas. Mais aujourd'hui, on est en mai 2019. J'ai aucune espèce d'idée. Tu sais, il y a Seattle qui s'en vient. Va-t-il avoir, ouais, une expansion, un déménagement? Est-ce qu'on rêve en couleur? Ouais. Est-ce que dans 10 ans, on va se réveiller et il n'y a rien qui va changer? C'est bien difficile à dire, mais c'est sûr que je pense que les gens sont beaucoup moins optimistes qu'on l'était il y a quelques années.
Un gros merci, François. Je te souhaite une belle saison des Capitales. T'as combien de tiens? 16e?
17e.
Déjà 16 de fait. 17e. Ça débute dans une semaine, jour pour jour, le 21 mai prochain.
Oui, puis j'invite les gens à venir au stade, puis les amateurs de ton émission de venir nous voir puis nous serrer la pince. Ça fait toujours un plaisir de rencontrer les gens au stade durant l'été.
Un gros merci à toi. C'est toujours le fun de se parler. Salut, François.
Salut, Dan. Merci.
Bye-bye. François Paquette, chroniqueur sportif et évidemment descripteur des matchs des Capitales. Il va amorcer bientôt une 17e saison dans ce rôle.